gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, il est bien 22h et quelques petites minutes et c'est l'heure de la causerie et oui, et c'est ces petits 10 ans aujourd'hui, enfin c'est ces 10 ans aujourd'hui,
oui.
Cette petite causerie qui devient grande, n'est-ce pas? Eh bien ce soir dans les studios nous avons Clara la technique.
Bonsoir.
Nous avons Fab.
Bonsoir, et Jean-Yves qui fait le lancement.
Bonsoir.
Alors, j'ai mon micro, ça va faire du bruit. Voilà.
Alors bah, comme depuis 10 ans donc, on va vous rappeler comment nous joindre. Si au cas où vous ne l'avez toujours pas compris. Donc c'est par mail à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu tout attaché et en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des retours ou autre. Et pour les retours, évidemment, c'est mieux de favoriser le blog, pardon, de l'émission.
Pas le blogs, mais le blog.
Qui est à l'adresse suivante, n'est-ce pas? Blogs, avec un S, là, ce coup-ci. blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous tapez la causerie Radio Canu, blog, tout ça sur votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, et vous devriez tomber sur nous si vous rajoutez bien Radio Canu. Donc évidemment, favorisez vos retours sur le blog, c'est vraiment mieux que sur un espace socio-commercial sur lequel on est aussi, sur Facebook, hein, pour tout dire. Donc voilà, donc là-bas c'est juste on reposte les choses, donc n'hésitez pas plutôt à, encore une fois je le dis, hein, favoriser le blog parce qu'il appartient à la causerie et plus largement à Radio Canu. Donc, il n'y a pas de bénéfice qui se fait sur votre gueule. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
Et on est aussi sur tout plein de plateformes de podcasts.
C'est vrai.
Mais il faut bien taper la causerie Canu.
Ouais, c'est
parce
ça.
Parce que sinon, il y a plein de causeries, c'est pas nous.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui s'est rajoutée, c'est la causerie du cassoulet. Et elle existe vraiment, j'ai vérifié. Et je me suis dit, putain, tout le monde nous pique causerie. Causerie du cassoulet, c'est pas mal quand même.
Quand même.
A priori, c'est des gens qui parlent des recettes de cassoulet.
Fort intéressant. donc vous l'aurez compris, alors pas une émission spéciale ce soir, hein, si ce n'est ce petit rappel de Alain Souchon, n'est-ce pas? Vous l'aurez peut-être reconnu pour les plus anciens.
Oui,
et les plus jeunes, c'est un ancien chanteur encore vivant, mais plus pour longtemps.
C'est dégueulasse.
Oui, c'est dégueulasse, mais c'est vraiment. Je me suis dit, on a vraiment choisi un truc de vieux, quoi, de notre génération.
Oui,
finalement.
Alors je vais l'assumer, c'est moi qui ai eu envie de mettre ça, donc voilà.
Bah, parce que c'est pas ma génération finalement.
Oh, c'est même pas vraiment la mienne non plus.
C'est formidable, en fait, nos 10 ans avec un truc.
Mais si,
je suis né
en 77, il a fait une grosse carrière dans les années 80, donc 90, donc ça va, ça colle.
Ok. voilà, après vous avoir raconté notre vie, on va quand même commencer par Fab, tu voulais justement, t'as rédigé un petit texte.
Ouais, sur les 10 ans.
C'est
parce que c'est quand même intéressant quand même de se dire qu'aujourd'hui la causerie a 10 ans. Et aujourd'hui, pile poil en plus, ça qui est marrant, la première émission était le mardi 5 mars 2013. Voilà. Oui, un mardi, hein, parce qu'on va vous le rappeler, c'était les tremplins. Enfin, oui. C'était notre tremplin.
C'est ça. Et parce que c'est toujours les tremplins.
Ouais. Et que les tremplins sur Radio Canu, ben, c'est le mardi. C'est-à-dire que c'est là que les émissions débutent en général, le mardi à 20h. Voilà. On était là, on démarrait, on était moins bons qu'aujourd'hui pour poser nos voix. Ça, c'est très clair. Il suffit de réécouter la première. On ne savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait. Faire de la radio, quelle drôle d'idée quand même, hein. Et en plus, pour faire une émission autant politique que culturelle, autant engagée que légère. Oui, parce qu'on n'a pas fait les choses à moitié. On a démarré, on s'est lancé, on s'est pris de passion pour cet exercice. Et au départ, en fait, on pensait pas forcément avoir des invités. Enfin, si, on voulait, mais on se demandait si on saurait faire. Parce que c'est surtout ça qui nous retenait un peu. Et en fait, oui, très vite, nous avons pris nos marques et on s'est dit que c'était plutôt cool d'interviewer des gens. Mais surtout d'ouvrir finalement l'antenne pour partager des histoires singulières. Les témoignages se sont succédés, nous ont touchés, remués, bouleversés parfois, mais chaque fois nous savions que nous avions permis qu'une parole se libère, qu'une information soit connue, passée. C'est avec beaucoup d'humilité que nous avons reçu la confiance que nous ont fait des personnes, associations, créatrices et créateurs qui sont passés sur les ondes en notre compagnie. Et puis il y avait l'idée aussi d'être sur Radio Canu. Canu, ce n'est quand même pas n'importe quelle radio. Elle est porteuse d'une image et d'un ton depuis 46 ans. Être accepté sur la grille de cette radio, ça a été une surprise. Très agréable, hein. On ne peut pas se mentir, on était contents. Intégrer une radio autogérée, c'est aussi découvrir que l'on peut faire tourner un outil aussi important sans céder aux habituelles dérives du capitalisme et de la professionnalisation par le salariat. Certes, ce n'est pas toujours simple. On va pas se mentir, il y a parfois des prises de tête, il n'est pas toujours simple de prendre des décisions, le débat et les dialogues peuvent parfois durer au-delà de ce qu'on aimerait, honnêtement, mais cela reste passionnant et fort, porteur de valeurs et sans aucun doute une expérience qui laisse des traces dans nos vies en général. Mais ce qui est le plus étonnant, pour nous, c'est d'être encore là, 10 ans plus tard. Faire vivre une émission, c'est mine de rien pas simple. Faut trouver des sujets, construire des chroniques, interviewer ou recevoir des gens. Tout ça, ça demande un investissement finalement assez constant. Mais quand on le fait par passion, envie, c'est plus simple, très clairement. Et je vais vous faire entrer un petit peu dans les méandres de l'émission et de comment ça se fait une émission. Parce que souvent on nous demande, hein, ça, on dit, mais comment vous faites? Alors tout commence en fait par l'envie de parler d'un sujet, d'un livre, d'une œuvre ou autre. On pose cela entre nous, on essaie de se dire comment on va faire. Après, il y a un temps de création de la chronique. Au départ, cela nous prenait plus de temps qu'aujourd'hui, hein, on va être très clair. Mais en gros, on peut se dire que c'est entre 4 et 6 heures de travail pour 15 à 20 minutes d'antenne. C'est à peu près ça. Non ? Ouais ?
Ah non, mais c'est toi qui as écrit le texte, donc ça ressemble à ta manière de faire. Mais ouais. Je suis pas sûr que je mette moins de temps aujourd'hui que...
Ah oui, 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 non, ouais, ouais. Bon, en fait, je dis ça, c'est peut-être que je me rends... point compte du temps, enfin bref, t'as raison. Et ensuite, il y a une petite dose de stress hein, à chaque émission, ça c'est normal, surtout avant. Et après on se lance, on vous propose notre chronique et une fois que c'est fait, bah, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle nous appartient plus vraiment. Et c'est sans doute en fait ce qui est le mieux, parce qu'elle est partie sur les ondes. Elle est partie se balader, hop là. Au départ, on pensait pas tenir 10 ans, hein. Ni même 2, hein. Peut-être même 1, voilà. Et en fait, on est encore là. Alors autant le dire, hein, c'était pas trop prévu au départ. On va vous faire une confidence, on partait pour 20 émissions, on en est à la 471e, donc ça va pas trop mal.
72.
Voilà. Oh pardon, 472e, tout à fait. L'équipe a bougé, c'est comme ça qu'on est finalement encore là. Clara, Dédé, Jean-Yves, Fab, Louli, Jonathan, Nadej, Stan, MK et Emma. Et parfois des passages en amis de quelques personnes, c'est chaque fois une voix, une vision différente, un point de vue singulier pour faire de la radio. Avec nos marottes, à chacun, nos goûts, nos coups de gueule, nos fous rires et nos tristesses. C'est ce qu'on a tenté de faire et de continuer à faire. De la radio différente, à hauteur d'humain, sans prendre les auditrices et les auditeurs pour des idiotes et des idiots, en admettant que nous sommes faillibles, et en nous trompant parfois, et en étant parfois pas clairs. Parce que non, nous ne sommes pas des pros et encore moins des robots. Ouais, promis, quand on nous remplacera par une intelligence artificielle, elle fera des phrases pas claires non plus. Voilà. Mais c'est un peu ce que vous recherchez, hein, finalement, je pense, quand vous mettez Canu sur votre poste de radio, ou sur les internets. Non, vous ne devez pas nous dire que vous venez chercher autre chose que ça. En fait, d'avoir autre chose que du formaté de ce qu'on entend partout ailleurs. Alors voilà, on ne sait pas combien de temps encore nous allons durer, mais tant que l'envie de faire de la radio est là, tant qu'on aura des choses à dire, tant que des associations, des personnes auront envie de venir partager sur les ondes dans notre émission, il y a des chances qu'on soit encore là quelques temps. Et puis on pourra continuer à partager avec vous aussi nos musiques, qu'on essaie de chercher les plus étonnantes possibles parfois ou pas. C'est aussi en fait une marque de la causerie, partager des goûts, y compris côté musical. Voilà. Allez, il est quand même temps de fermer cette ouverture. Oui, cette phrase, j'avais envie de la mettre, elle ne veut rien dire. Les bougies sont inutiles à la radio, hein, parce que vous ne les verrez pas, donc on va éviter d'en allumer pour rien. En tout cas, une fois de plus, merci d'être là, de nous écouter. Merci pour vos retours parfois, pour vos partages, pour vos encouragements. Et puis je crois qu'on se joint tous les trois pour vous faire des bisous. Voilà. Ou presque.
Non, y a... 2 et demi, quoi.
Voilà, Clara, elle fait des ciao. Mais pas des bisous. Allez, un peu de musique pour passer un peu de temps ensemble.
Madame, monsieur, actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging, parce que j'ai fait un burn-out carabiné dont je n'arrive pas à me sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé, je ne mets plus de chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le wifi de mes voisins. Je n'ai aucune ambition particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé. Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler, c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol, je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant 3 quarts d'heure, dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron. Je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif, les gens. Je vois que vous avez une salle de pause avec un baby-foot. C'est vraiment super pour se détendre entre deux réunions où je ferai semblant d'écouter. Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi, dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent. J'ai le profil idéal pour échouer avec panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et incompétents. Spécialement venir à votre séminaire d'entreprise, je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard de la Conta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement. We'll be right back.
pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré.
Et vous êtes toujours dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et juste avant, Alain Souchon qui vous rappelait que la causerie a 10 ans ce soir. Vous aviez... Oui, il a écrit la chanson exprès pour ça. Ouais. Vous aviez The Toxic Avenger avec Bien Cordialement. Voilà.
Ouais, très bon titre.
Ouais, très sympa. Et je trouve la lettre qui est lue au départ extrêmement symptomatique de notre époque. Voilà.
Eh ben c'est Fab qui prend la suite.
Oui.
Et tu vas nous parler du retour de la mort qui tue des antivax.
Bah ouais. Donc, bah j'aurais bien aimé pas en parler. Mais enfin, au départ, hein, moi, je savais pas si ça valait la peine de parler du livre que je vais dézinguer dans le reste de ma chronique. Et puis, je me suis baladé sur les réseaux sociaux commerciaux et je suis tombé sur plusieurs publications qui semblaient faire de ce livre la nouvelle bombe digne du Mediator. Voilà. Alors, faut savoir que quand je dis j'ai vu des publications, c'est pas des publications que de gens, c'est aussi des publications de ces gens que nous appelons les influenceurs et influenceuses. Et donc, il faut savoir que c'est des gens qui ont des grosses audiences. Voilà. Et donc, oui. Certains qui peuvent se réclamer de parler à 7 ou 10 millions de personnes à chaque fois qu'ils font une vidéo. Donc, c'est pas rien.
Vous voyez,
voilà. Donc, ça m'a un peu surpris. Alors, je vais le dire, j'ai pas lu tout le bouquin. Donc, je me suis pas infligé ça. Voilà. D'abord parce que pas possible pour moi d'avaler autant de bêtises, hein, faut être très clair. Mais surtout, hors de question pour moi de donner de la thune à cet auteur. Voilà, tout simplement. Ce livre, hein, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et je vous en révéler le titre. Vaccin. On nous aurait menti. La vie d'un avocat. Voilà. Et donc, c'est écrit par l'avocat Jean-Pierre Joseph. Voilà. Donc déjà, quand on a 3 fois des trucs bibliques dans son nom, ça craint, mais c'est pas de sa faute, mais Jean-Pierre Joseph. Voilà. Alors, autant le dire, ce livre est sorti en pleine période du Covid en 2021, mais c'est déjà une réécriture d'un livre qui traîne depuis quelques années, ce Jean-Pierre Joseph. Régulièrement, il le ressort avec des nouveaux chapitres. Voilà. Et la dernière édition date de 2021, mais il fait un grand retour en ce moment. Alors, pourquoi? J'avoue ne pas trop comprendre. Hein, pourquoi maintenant?
Quand même.
Ouais.
Je veux dire, le terrain est hyper propice. Je veux dire, on a passé 2 ans avec le Covid.
Oui, mais pourquoi pas en 2021? Pourquoi en début 2023?
Il faut toujours du temps à la merde pour se faire sentir.
C'est possible. C'est le début de la décomposition. J'en sais, il y a de la merde là. Bon. Alors, en fait, il fait un grand retour. Hein, et j'étais un peu surpris d'en entendre parler autant de fois finalement. Et c'est un contact contact sur le réseau Mastodonte, donc qui n'est pas un réseau socio-commercial pour le coup, qui m'a parlé de ce livre en premier. C'est-à-dire qui était déjà venu m'en parler il y a quelques temps, et parce qu'il sait que je suis pro-vaccin et que je travaille dans une société qui les produit, hein, accessoirement, je m'en cache pas. Du coup, il m'explique qu'il aimerait avoir mon avis à l'époque, vu que sa cousine lui a parlé de ce livre. Cousine qui a, je vais le révéler, 17 ans, et qui a vu ça chez une influenceuse qui vit à Dubaï. Voilà, donc vous voyez... Tout se tient. Et donc merci à lui, hein, parce que finalement il m'a mis un lien où se trouvent les plus importantes pages de ce livre Révélation. Hein, voilà, parce que le site sur lequel il m'a envoyé, c'est quand même un site où il y a écrit les meilleures pages de la révélation fracassante. Ouais, alors déjà quand on a un titre comme ça, il faut changer de... Voilà. Bon, alors parlons d'un avocat. Bon oui, parce que Jean-Pierre Joseph, il est avocat, mais c'est pas n'importe quel avocat. C'est un des avocats anti-vax les plus actifs. Hein, vous l'avez sûrement vu dans plein de documentaires conspirationnistes, parce qu'il adore parler, ce monsieur.
Enfin, il faut déjà regarder des documentaires
conspirationnistes. Oui, si vous les regardez. Mais donc, c'est pas quelqu'un dont le visage vous serait inconnu si on vous montre une photo. Vous dites, ah mais tiens, je l'ai vu sur CNews, lui. Il se bat depuis des années contre l'obligation vaccinale, mais aussi contre les vaccins, tout simplement, en affirmant des contre-vérités sans fin. Voilà. C'est-à-dire que si vous écoutez tout ce qu'il dit, vu le nombre de personnes vaccinées dans le monde chaque année, on devrait déjà tous être morts, mais il continue à chaque fois de balancer des trucs.
C'est vrai que ça, c'est un truc quand même, je m'interroge, c'est comment les anti-vax peuvent dire que l'idée, c'est de tuer tout le monde, alors que finalement, la population mondiale tend toujours à grossir, en fait.
Ouais. Et il y a un paradoxe, c'est que là où tu vaccines, elle a tendance à moins mourir aussi. C'est un truc de ouf, quand même. Bon, bref. Alors, il est aussi d'ailleurs l'auteur du livre « Les radis de la colère ». Il a le sens du titre, hein, ce monsieur, en tout cas. Qui réhabilitait la communauté au russe. Pardon. Le Centre international de parapsychologie et de recherche scientifique du Nouvel Âge. Wow. Voilà. Bon, qui n'est en fait qu'une secte, hein, parce que l'individu l'avait classé comme tel. Voilà. Lui, il dit c'est néo-religieux. Bon, alors évidemment, les religions sont des sectes qui ont réussi, on va pas lui donner tort, mais par contre, la communauté Horus, ça a l'air d'être un petit peu une secte quand même.
Comment ça
Alors, c'est le centre.
Théorus ?
Non, Horus. Comme le dieu Horus, voilà, dieu de la lumière et du savoir. Et c'est le Centre international de parapsychologie et de recherche scientifique du Nouvel Âge. Accrochez-vous, parce que donc comme ça.
Ouais, c'est un programme. Hein.
Voilà. Donc, on voit que le monsieur, quand même, il écrit des livres hyper orientés. On va quand même pas dire le contraire. D'ailleurs, on va s'arrêter 2 minutes sur un point qui a son importance. Un avocat a donc un avis sur les vaccins. Bon, ok. Et affirme, parce que c'est là que ça commence à devenir un peu plus compliqué, avoir tout compris. Donc tout, hein, voilà. Le souci, c'est que dans pas mal de passages, il en appelle à la science, parce qu'il dit des scientifiques disent. Alors bon, il les cite pas hein, les scientifiques qui disent, mais c'est des scientifiques qui disent. Vous voyez, c'est le truc, voilà. C'est l'homme qui a vu l'ours, hein, c'est l'éternel truc. Bon, ok. Mais en fait, moi j'ai comme un doute. Hein. Personnellement, si j'ai un problème de moteur, je vais pas aller voir mon boulanger pour avoir son avis. Voilà, bizarrement, je me dis, c'est pas lui qui sera le mieux placé. De la même façon, comment peut-on se dire qu'un avocat est, comme il l'affirme, une connaissance totale, et il le dit dans plusieurs vidéos que j'ai regardées de lui, donc connaissance totale, hein, tout ça, c'est pas rien. Hein. Je vous rappelle, lui qui aime la science, hein, quelqu'un qui a une connaissance totale d'un sujet en science, et il n'y a aucun scientifique qui vous dira, j'ai une connaissance totale de mon sujet, ça veut dire que vous connaissez les tenants et aboutissants de la vaccination, de la fabrication, de l'utilisation, du mode de fonctionnement, vous voyez, tout. C'est personne n'a de connaissance totale sur un sujet en science, ça n'existe pas. C'est, ça prélèverait l'omniscience. Ça n'existe que dans la Bible ou dans le Torah ou le Coran ou ailleurs d'ailleurs. Mais ça n'existe pas en science. Personne vous dit j'ai une connaissance totale. Mais ce monsieur vous le dit. Et puis alors, il le dit. Hein. Moi j'ai regardé des vidéos de lui quand même pour voir un petit peu ce qu'il racontait. Et ça revient souvent. Moi depuis le temps j'ai une connaissance totale de tout ça. Bah en fait non. Voilà. Donc après j'ai lu parce que voilà. Alors je vais commencer par le quatrième de couverture. Parce que c'est souvent ce qu'il faut faire quand on a un livre dans les mains. Dès le quatrième de couverture, on sent que les arguments sont ceux des fans de la nature et des religions. L'humain serait parfait. Et ça donne donc, je cite, « En effet, nous devons déjà, depuis 2018, administrer à nos enfants 11 vaccins obligatoires. L'être humain serait-il si mal conçu qu'il faudrait dès la naissance lui injecter autant de produits chimiques pour qu'il survive ?» Oui, c'est une belle cette phrase, hein, comme ça. J'aurais pu la dire façon documentaire YouTube qui font peur. Ça existe aussi. Et un peu plus bas, hein, dans le quatrième de couverture, il ajoute « Mais alors, pourquoi avons-nous survécu aux épidémies de peste, de choléra, de suette picarde, de scarlatine, de grippe espagnole, de pneumopathie atypique ?» Oui, il refuse de dire Covid. « Plus récemment, Ebola, pour lequel il n'y avait pas de vaccin ?» Point d'interrogation. « Nous cacherait-on nos capacités naturelles d'auto-guérison ?» Point d'interrogation. Voilà, alors c'est bon.
Il en sait beaucoup sur la science selon lui, mais il ne doit pas beaucoup regarder les informations parce que, quand même.
C'est quand même un peu. C'est le genre de phrases qui, moi, me font un peu rire parce que c'est des phrases qui sont faites pour choc, punchline, qui donnent l'impression de maîtriser un sujet. En fait, on va un peu les décortiquer. Hein. On va falloir quand même poser hein, les choses, clairement. On va commencer par la première phrase. Alors, je vais rappeler que non, les vaccins ne sont pas des produits chimiques. Pardon, hein. Le cœur d'un vaccin est biologique, toujours, que ce soit sous la forme atténuée, chimérique, ARN, partiel, mort, tous les vaccins sont de base biologique ou à fonction biologique comme l'ARN. C'est-à-dire qu'en fait, votre corps, quand vous lui injectez un vaccin, il voit un truc vivant, ou du moins qui a été vivant, si c'est une forme atténuée morte. Il ne voit pas un produit chimique, il voit quelque chose qui sait lire. Sinon, ça ne marcherait pas le vaccin, c'est un peu le principe. Donc non, ce n'est pas des produits chimiques, on va se calmer. Hein. Et maintenant, on va passer aux deux suivantes. Alors, je vais répondre à sa question, parce qu'il pose la question. Comment on a survécu à la grippe espagnole? C'est facile. On n'était pas dans les 50 millions de morts qu'a fait la grippe espagnole dans le monde. Voilà comment on a survécu. Mais a priori, hein, tout le monde n'a pas survécu. Donc, c'est le principe du survivant, parce que c'est celui qui survit là où les autres sont morts.
Après, oui, c'est le principe des millions de morts.
Ben oui, c'est ça. C'est... Alors, pour la peste, hein, elle n'a jamais tué qu'un tiers à la moitié des Européens avant de régresser. Hein, voilà. Donc, on a survécu un peu par hasard, en fait, et en laissant mourir les malades. Tout simplement. Et pour Ebola, parce qu'il parle Ebola, il aime bien, dans plein de vidéos, il nous parle d'Ebola. Il dit, mais comment on a fait? Alors, il oublie juste que des villages entiers ont été coupés du monde pour éviter toute propagation. avec des gens laissés totalement sans aide et parfois sans eau. Donc la réponse est, comment on a fait ? Elle est simple. Et ben en fait, on a fait de l'eugénisme au nom du naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas soigné, et on a essayé de soigner, et puis on a laissé mourir. Voilà, tout simplement. Alors, je vais faire une parenthèse, mais t'en avais parlé quand t'as présenté ta BD sur les croque-morts. Le mot croque-mort vient de la peste. C'est-à-dire qu'on avait un crochet pour prendre les cadavres qui étaient au sol et les balancer dans une charrette pour ne pas les toucher.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'on ne portait pas les cadavres, on les traînait.
Avec un croc de boucher. Croque-mort, voilà. Et donc, en fait, on voit bien comment on a survécu. Parce qu'il se pose des questions, le monsieur, mais il devrait lire un peu, parce qu'on sait comment on a survécu. Alors, on va être clair, on n'a pas survécu, on a vécu des pandémies et des épidémies. C'est juste que oui, tout l'ensemble des humains sont pas morts. Mais c'est un peu le principe. Je veux dire, même si un jour une maladie tue 90% des êtres humains, il y aurait 10% des humains qui survivraient, effectivement. Est-ce que ça justifierait le fait de ne pas développer un vaccin pour éviter que 90% des humains meurent ? Je suis pas sûr. Je vais le poser comme ça, je peux pas persuader. Voilà. Surtout que c'est sacré pari de se dire je vais être dans les 10%.
Oui.
Voilà. Et le plus drôle, en fait, c'est surtout la notion d'auto-guérison. Alors ça, c'est un mot que j'ai pas fait rire, parce qu'en fait, ça n'existe pas, l'auto-guérison. On guérit ou on guérit pas. Je veux dire, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, je m'auto-guéris, tu sais. Parce qu'en fait, ça, c'est toutes les croyances. C'est genre, vous mettez devant un bol tibétain, vous tapez dessus, ça fait boing, comme ça, vous allez vous auto-guérir. Non, ça, en fait, ça marche pas. Hein, voilà, je vous le dis. Ça peut vous faire du bien. Hein, ça peut, ceci dit, avoir un effet placebo terriblement efficace. Mais ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout, quoi. Mais en fait, c'est pas un auto ou pas auto. C'est soit je guéris, soit je guéris pas. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que oui, hein, parfois, des gens survivent à des maladies mortelles. Et quand, par exemple, une maladie est mortelle à 50%, eh ben, il y a une personne sur deux qui survit. C'est logique, hein, parce qu'elle n'est pas mortelle à 100%. C'est parce que sinon, on dirait qu'elle est mortelle à 100%. Donc, par exemple, pour répondre encore à sa question, Ebola ne tue pas 100% des gens qui le portent. En réalité, on sait aujourd'hui qu'Ebola tue 92%. Donc, vous avez 8% de chance de vous en sortir. Vous voyez, c'est un peu le truc, voilà, sous la forme hémorragique d'Ebola, je précise. Hein, parce que, voilà, il y a une forme moins hémorragique dont vous pouvez vous sortir. Donc, en fait, oui, bah il y a des gens qui vont, oui effectivement, qui vont s'en sortir, mais c'est un peu du hasard statistique. C'est pas c'est pas une auto guérison. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, s'est mis ses deux doigts sur le front comme à l'époque des mangas et qui a dit je veux guérir. Ça marche pas en fait.
Ouais, et puis c'est aussi, je sais pas, c'est ce que tu disais, c'est une forme, enfin c'est de l'eugénisme en fait quoi.
Ah oui, bah oui.
C'est au bonheur, la chance. Bon bah peut-être que tu vivras ou pas, mais pour ça, ouais en fait c'est ça, c'est il y a vraiment un truc.
C'est la fameuse phrase, Dieu reconnaîtra les siens.
Ouais c'est ça.
C'est-à-dire en gros, voilà.
La santé reconnaîtra les siens.
Voilà. Alors ah je pense qu'il y a quand même une pensée religieuse
mais
derrière.
Bien
sûr. Voilà. Alors en fait c'est un non-argument hein, en fait cette phrase, c'est un chausse-trappe pour vendre encore l'idée que la nature c'est mieux que la science et la médecine. Alors on va rappeler à ce monsieur quand même que ce qui nous permet de faire de la science et de la médecine, c'est l'évolution de l'être humain. Et qu'en fait, bah, la science et la médecine, c'est naturel. Parce que c'est l'évolution naturelle qui fait qu'aujourd'hui, on peut réfléchir à la science et à la médecine. Voilà, ça va peut-être le détendre du slip, je sais pas. Bon, de toute façon, ce livre, en fait, est bourré de références à d'autres livres. C'est ce que j'ai lu, je vous avoue, c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est un livre où toutes les trois phrases, on vous cite un autre livre, ou un passage d'un livre. Et en fait, il n'y a quasiment rien qui est écrit de la main de ce gars. Il fait une sorte de recension. Alors, j'ai remarqué quand même qu'il y a une certaine malhonnêteté parfois dans les citations. Parce que par exemple, il va prendre une citation de Pasteur, hein, l'inventeur du vaccin quand même, pour lui faire dire l'inverse de ce que Pasteur avait dit à l'époque. Mais il va la tronquer suffisamment tôt dans la phrase ou dans la démonstration pour dire « Ah, vous voyez, même Pasteur avait des doutes. » Bah oui, parce que quand Pasteur a posé son idée du vaccin, il a fait ce que tout scientifique fait. Il a posé les pour, les contre, le doute, et pour voir s'il y avait un bénéfice-risque. Est-ce que le bénéfice était supérieur au risque ? Donc oui, dans la thèse, c'était pas une thèse pour Pasteur, mais dans les travaux de Pasteur, bah, il y a des moments, effectivement, où on peut trouver des phrases qui vous disent, où il doute, tu te dis « Ah, est-ce que ça va marcher ? » Ou « Est-ce que finalement un surdosage n'est pas possible ?» Mais c'est des questions scientifiques, c'est normal.
Bah, et en plus,
et tant mieux qu'il se les pose.
C'est rassurant en fait. Bah,
oui,
il se prenait pas pour un omniscient.
C'est ça.
Qui,
c'est vrai qu'il avait tout compris.
Bah, ouais, c'est ça. En fait,
voilà.
Ça.
Et ce qui n'est pas étonnant, hein, c'est que tous les autres livres qui sont cités sont en fait des livres écrits par des anti-vax, des naturopathes et autres charlatans qui pensent que la santé peut se soigner par les pierres, la musique, le chant des oiseaux. Enfin bref, voilà tout ça. Donc on n'est pas surpris des livres qu'ils ont cités. Et ce livre, alors par contre c'est très bien écrit les transitions, c'est-à-dire qu'on sent que le monsieur est avocat quand même. Il a quand même un beau phrasé, vous voyez, c'est pas. Et ce livre est en fait une réédition, hein, comme je disais, et son idée est simple. Derrière des centaines de pages qui ne sont finalement que des reprises d'autres ouvrages Cranios, se cache le cœur du livre. Et le cœur du livre, c'est les tactiques d'un avocat anti-vax pour contourner les obligations vaccinales et quand même scolariser vos enfants sans les vacciner. Alors, c'est même écrit sur la couverture, hein, donc il s'en cache pas vraiment. Mais c'est bien détaillé dans le bouquin. Moi, j'ai lu la partie, on sent que le monsieur, il sait comment on peut faire. Quitte d'ailleurs à mentir un peu. Enfin, pardon, comme il dit, omettre. Ouais, il peut pas, en tant qu'avocat, dire aux gens de mentir. C'est un homme de loi, quand même. Voilà. Vous voyez, donc c'est là qu'on sent quand même le côté très pourri. Alors, je vous le dis, hein, je vous ai donné la référence du livre. Si vous me croyez pas, vous le lisez. Puis vous m'écrivez, vous me dites, bah, ce que tu dis, c'est faux. Moi, je vous le dis, franchement, dans la partie sur la vaccination des enfants, pour moi, il y a un appel très clairement à ne pas vacciner les enfants, mais aussi très clairement à contourner la loi. Quitte à ce que vos enfants puissent être malades, parce que c'est un petit peu ce qu'il dit. Parce que moi, les sous-entendus qui dit en truc de ligne que la diphtérie c'est pas grave, si la diphtérie c'est grave, c'est mortel parfois même d'ailleurs. Et il dit bah oui, mais on la voit plus en France. Bah oui, couillon, on vaccine. Non, mais ça, vous voyez. En fait, il fait plein de contre-arguments comme ça qui sont complètement idiots. Du genre, il vous dit ah bah c'est quand même étonnant, hein, parce que la grippe en France elle tue moins qu'avant. Bah c'est normal, on a des campagnes de vaccination contre la grippe, c'est logique. Enfin oui, si on vaccine plus, elle va tuer plus qu'avant.
Mais en fait, j'imagine qu'il n'apporte pas vraiment de réponse.
Non,
en fait.
Non. C'est le suspens.
En fait, c'est le propre de tous ces milieux-là, c'est de semer finalement le doute.
Ouais,
sans apporter de réponse, parce que finalement ça amènera au moins un point de vue, tu vois.
Ou sans même apporter finalement de lignes claires de ce qui vous pourrait vous permettre de comprendre ou de répondre par vous-même.
C'est-à-dire
qu'en fait, il y a beaucoup, en plus dans son livre, il y a énormément d'arguments d'autorité. Ouais, je sais que j'ai étudié.
Ça ressemble fondamentalement à un truc religieux, sectaire, ouais, etc. C'est-à-dire, tu as les dignitaires qui savent,
c'est ça,
qui sèment leurs paroles, etc. Ouais. Mais sans tout expliquer, parce que ça fait partie du mystère. Tout
c'est ça.
Et vraiment, enfin, c'est terrible parce que le fonctionnement, on sait que
c'est
ce
un
genre de démarche,
en fait,
ouais, et on sait que ce genre de démarche fonctionne sur une partie de la population. Et c'est ça le plus attristant finalement dans toute cette merde, quoi.
Ouais, et ce qui est intéressant, enfin, je suis d'accord avec toi, hein, totalement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de voir un petit peu comment fonctionnent, je le disais, les trucs d'autorité. Mmh. Moi, je vous invite vraiment à lire des ouvrages scientifiques, écrits par des scientifiques. Ben, ça va vous surprendre parce que des fois, les scientifiques, ils vous disent, je sais pas. Moi, j'ai déjà lu des livres où, notamment sur la physique quantique, qui était très intéressant, avec quelqu'un qui vulgarisait la physique quantique. Et puis, au milieu du livre, il dit, alors, par contre, moi, cette partie-là de la physique quantique, je la connais pas. Donc, je vais pas aller dessus. Donc, je vais vous parler de ce que moi, j'ai déjà étudié. Et puis, même dans ce que j'ai étudié, il vous dit, bah là, je suis même pas sûr de mon résultat. Parce que, bah, il faut que ce soit confirmé par 3 ou 4 confrères avant que vous voyez. Donc, en fait, il y a un doute, systématiquement, dans la science, qui est toujours assez affiché. Alors que dans son livre, à lui, bah, il n'y a pas de doute. Tout est comme ça, voilà. Alors, pêle-mêle, hein, je vous le dis, il affirme par exemple que les vaccins font des milliers, je dis bien des milliers, hein, d'enfants paralytiques tous les ans. Voilà. Donc on est dans une société où ce monsieur pense qu'avec Internet, les réseaux sociaux, le fait que tout puisse se voir ou quasiment, on aurait des milliers d'enfants devenus paralytiques. Je rappelle que paralytique, ça veut dire dans un fauteuil, hein, quand même, et qu'en fait, on arriverait à le cacher. Vous voyez, c'est un peu... Voilà. Je sais pas quoi penser de ce genre de phrase, vous voyez. Mais il vous dit, c'est comme ça, je le sais. Ben voilà, bon. Alors à noter, hein, et cela peut quand même vous aider, hein, quand on vous parle d'un livre, c'est d'aller en chercher la maison d'édition. Ben toujours, parce que c'est toujours marrant. Eh bien, on est là devant un cas d'école. Les éditions du livre, c'est les éditions Testez-vous. Alors déjà, le nom de l'édition est superbe. C'est en fait une branche des éditions Marco Pieter. Alors Marco Pieter, peut-être que ça vous dit quelque chose, comme ça vous avez peut-être déjà entendu, notamment si vous fréquentez le salon Primevert. Voilà. Ouais, des fois j'ai envie de rappeler.
C'est un salon...
Ah oui, c'est un salon écolo de Lyon.
À Lyon.
Voilà, où il y a beaucoup de livres de merde vendus, hein, faut quand même le dire. Donc et Marco Pieter, c'est bien en fait juste un éditeur de tout ce qui est le plus craignos autour de l'homéopathie, l'ésotérisme, l'acupuncture. J'ai vu aussi qu'il avait un livre sur parler à vos fantômes. Enfin, ça a l'air d'être passionnant ce qui... Voilà. Donc il a créé en fait cette branche Testez-vous. Hein, pour faire une sorte de branche faussement sérieuse qui publie des dizaines de livres d'anti-science en fait au final, mais avec des titres très ronflants et qui donne l'impression que c'est fait par des grands spécialistes. Voilà. Alors j'irai pas au-delà, hein, pour ce livre. Je vous dis franchement, je pourrais vous en lire des passages, mais je vois pas trop l'intérêt. Et honnêtement, vous irez les chercher par vous-même si vous voulez sur Internet. Ça me paraît mieux. Mais on sent quand même que la vague anti-vax, complotiste et d'extrême droite entamée pendant le Covid, elle est pas prête de s'arrêter. Et de voir aujourd'hui circuler cette désinformation, et comme je le redis, hein, par des influenceurs, des sites conspi et autres, mais surtout être prise finalement par beaucoup de monde qui sont inquiets, et c'est normal parce que ça fait peur. Ils s'inquiètent, les gens, quand ils entendent ça.
Mais c'est en ça aussi où c'est très proche du religieux, c'est-à-dire que ça vient répondre, ça vient
à des peurs,
surfer ouais, à des sur peurs. Des peurs en fait. Ouais.
Et du coup, ben moi, ça m'inquiète à titre personnel de voir ça autant repris. Encore une fois, hein, il va nous falloir reprendre à la base et faire de l'éducation populaire sur les sciences, parce qu'on va pas pouvoir tourner autour du pot. Donc c'est pour ça que dans la causerie, régulièrement, on essaye de revenir avec des sujets scientifiques, ou dans lequel on vous dit pas qu'on a sait tout, mais dans lequel on vous donne envie d'aller creuser, parce que c'est ça quand même l'idée qui est derrière. Voilà. Donc le combat est long, hein, il nécessitera une fois de plus de devoir se fader des débunkages, comme je viens de le faire, de devoir réaffirmer des choses encore et encore et encore. En tout cas, moi je voulais remercier mon contact de Mastodonte, hein, de m'avoir parlé de ce livre, de m'avoir envoyé le lien qui m'a permis de pouvoir lire les principaux passages. Voilà. J'ai pu vous en parler à mon tour et vous dire de surtout pas le prendre au sérieux, ce bouquin, voilà. Et je salue aussi ici au passage quelqu'un que j'aime beaucoup et que je vous invite à suivre sur internet, qui s'appelle The French Virologist, qui est une femme qui fait des vidéos très sympas de débunkage et qui a aussi débunké ce bouquin, parce qu'elle aussi, elle avait un contact qui lui a dit, disons, qu'est-ce que t'en penses de ce livre ? Comme quoi il tourne, hein, parce que pour que ça arrive comme ça à plusieurs personnes, voilà. Donc il faut démultiplier les canaux, tant ces gens ont finalement pignon sur rue et sont au fond très 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 dangereux. Et je vais faire une parenthèse, je ne l'ai pas écrit, mais je voulais le dire ici. On a dans nos milieux une tendance à sous-estimer le poids de ces fameux influenceurs et influenceuses. Il y a assez peu d'émissions de radio ou de télévision qui en parlent. Alors je sais qu'il y a l'émission Quotidien qui a un truc où ils essayent de débunker un peu tous ces trucs-là et de se moquer aussi de ce qu'ils font.
En tout cas, de montrer l'ampleur
du truc.
De ce que sont les influenceurs et les influenceuses.
Je sais que sur France Info, il y a aussi les débunkers qui régulièrement en parlent, le site Le Monde aussi. Mais il y en a assez peu. Et en fait, c'est une sorte de sous-couche qu'on oublie totalement dans notre société et qui pourtant ont, notamment sur les plus jeunes, une influence énorme, parce que c'est des mini-vidéos de 30 secondes que les gens voient en swipant, comme on dit maintenant, enfin, en faisant défiler leur écran. Et en fait, elles sont très bien faites parce que c'est des gens qui maîtrisent extrêmement bien le sens de la mise en scène, les outils. Et donc, moi, j'en ai vu plusieurs pour ce bouquin. Et franchement, si je n'étais pas informé, je pense que, et c'est pour ça que j'en veux pas aux gens qui croient en ces choses-là, parce qu'ils ont manque souvent d'informations, et ben moi aussi j'aurais flippé, quoi. Parce que quand vous avez un gars qui face caméra vous dit j'ai lu un livre et figurez-vous que je sais d'où vient la paralysie de mon voisin, qui, vous voyez, en fait il y a une espèce de mise en abîme d'un seul coup qui dure 30 secondes, donc extrêmement condensé, et donc où tout est balancé très vite et très de façon très violente. Et ben ouais, je me dis, si quelqu'un a 15 balais et se retrouve devant cette vidéo-là, ou même plus âgé, mais et n'a pas des outils de démontage ou de choses comme ça, et ben en fait ouais, ça va les influencer, d'où le terme d'influenceur, voilà. Mais
ouais, et puis enfin je pense que c'est vraiment de loin pas en lien avec l'âge, en fait.
Non, t'as raison, c'est
vraiment
moi qui
fais
un truc
avec avec l'ignorance, et c'est pas grave, enfin moi je suis
et la curiosité
pas...
aussi,
oui oui, ouais. Ben ça va souvent avec, ouais. En fait, mais je veux dire, enfin je l'ai déjà plein de fois dit ici, j'ai pas du tout une culture scientifique, au contraire j'ai plutôt une culture au départ religieuse, ouais. Donc loin du matérialisme, etc., de la démonstration, etc., et qu'en fait il y a vraiment il y a quelque chose aussi, en fait, dans nos propres milieux, en fait. Moi, je le dis de toute façon, enfin, je l'ai déjà dit, le retour du religieux, il est aussi adoubé par une partie de nos milieux, parce que il faut surtout pas s'attaquer aux croyances, parce que il faut respecter. Mais en fait, on peut attaquer une croyance, un dogme, on peut attaquer toutes ces choses-là, sans s'en prendre aux individus. Alors oui, ça va heurter celui ou celle qui croit dans ces choses-là. Mais c'est la vie, quoi. Je veux dire, penser qu'on peut faire avancer des idées progressiste, révolutionnaire, matérialiste, sans heurter personne, mais je veux dire, bah, il faut retourner dans le monde des bisounours, en fait, parce que ça n'y arrivera jamais. Et qu'en fait, vraiment, le lien, il est identique, en fait. Enfin, pour moi, la religion, l'anti-science, etc., c'est lié. Enfin, je veux dire, il faut quand même arrêter de se mentir. On a des liens quand même assez souvent assez clairs entre les anti-vax, le religieux, alors qu'il
donne l'extrême droite.
L'extrême droite. Enfin, il y a une sorte de milieu justement propre à ces idées-là, et que là aussi, en fait, dans nos milieux, on va se foutre de la gueule de ces croyances, mais se foutre de la gueule des croyances, en fait, bah, à moins d'être humoriste,
Bah, ça n'a pas une grande vertu parce que finalement, ça n'apprend pas grand-chose, ça ne détruit pas grand-chose.
Bah, ça,
si ça, ce n'est, ça renforce peut-être même les gens en fait, qui sont dans ces trucs-là. Parce que quand tu te fais moquer, c'est rarement agréable et tu vas rarement aller écouter, tendre ton oreille à ça. Ou alors, on va se dire, ouais, mais c'est une quantité négligeable. Mais en fait, négligeable ou pas, en fait, on s'en fout. Je veux dire, ça va à l'encontre d'une pensée matérialiste, etc. Donc, il faut s'y attaquer, en fait. Mais je veux dire, moi, je n'oublie pas non plus la remarque qu'on a pu avoir quand on a fait des émissions avec Georges, où un des premiers commentaires c'était la prochaine émission c'est comment enculer les mouches sur la lune ou je sais plus quoi, et en fait on se dit ouais mais bah, en fait à l'écoute d'une radio ultra rebelle machin truc, bah, en fait rebelle ça dit pas grand chose quoi.
Ah non, on est bien d'accord,
c'est être contre quelque chose, mais être contre quelque chose on peut être contre les pires des merdes. Et j'oublierai pas, après mais j'oublierai pas non plus la fois où j'ai diffusé moi ici un mardi soir à la place des tremplins un documentaire sur la gestion en fait du Covid dans nos milieux dits révolutionnaires, autogestionnaires, etc. Et je veux dire, on a eu la visite d'un auditeur qui était franchement pas loin de nous en mettre des coups sur la gueule, en nous vraiment, en nous méprisant, etc. Donc je veux dire, il y a aussi quelque chose de oser affirmer nos pensées matérialistes, scientifiques, athées, antithéistes, et qu'en fait on est quand même là aussi, je pense que c'est en lien aussi avec la destruction, enfin en tout cas la minorisation on va dire de nos pensées, bah en fait il y a plus grand monde quoi, et on a peur de se fâcher avec X ou Y parce que on sera encore moins. Ouais, mais en fait, je pense que des fois, il vaut mieux choisir l'éthique et le politique que la masse, quoi.
Ouais, puis je crois pas qu'on soit si moins que ça. Je crois surtout qu'on a perdu l'habitude d'amener les gens à la curiosité. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit beaucoup de choses au slogan.
C'est dogmatisé.
On réduit beaucoup de choses au slogan. Et moi, je vais donner un exemple. Je vais faire un parallèle volontaire. Moi, je vais participer aux manifs contre les retraites, contre la casse des retraites. Mais je trouve qu'en fait, le travail militant, pour une fois, il a été fait. C'est-à-dire que les syndicats en général se sont réemparés du truc, sont allés faire des sorties de métro, ont pris le temps de discuter avec les gens et de leur expliquer pourquoi en fait on pouvait financer autrement, travailler moins, partir à la retraite à 60 ans, être sur 37 annuités et demie, voilà. Et ça c'était du vrai travail de curiosité, parce que les gens en fait ce qu'ils entendent c'est un slogan. L'État il vous dit c'est 64 ans, le système de retraite il est mort. Et puis ben, si vous répondez par un slogan, vous répondez oui, mais moi c'est 60 ans et je sais que c'est faisable. Bon, une fois que vous avez fait ça, en fait, la plupart des gens, ils ont aucune donnée. Alors ils se disent bon ben, je sais pas lequel je vais croire. Et c'est deux arguments d'autorité et les gens ne peuvent pas s'emparer de ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que le gouvernement appelle de la pédagogie, mais c'est pas du tout de la pédagogie. Pour moi, c'est amener à la curiosité. Et justement, quand on voit, quand un gouvernement vous dit on manque de pédagogie, c'est qu'il prend les gens pour des enfants. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est pas de la pédagogie dont on a besoin, c'est l'amener la curiosité. C'est-à-dire, voilà.
Et poser des arguments.
Et ben, je trouve qu'en science, il faut faire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je salue parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui font de la vulgarisation, qui essayent de faire des vidéos sympas, de faire de la radio, de venir expliquer les choses et qui prennent le temps. Et puis, il y a des émissions qui maintenant ouvre la porte à des scientifiques, des fois pendant 15-20 minutes, pour parler de sujets. Parce que ouais, hein, excusez-nous, mais la physique quantique en 3 minutes, ça n'existe pas en fait, par exemple. Ou expliquer comment fonctionne un vaccin en 3 minutes, c'est pas trop possible. Il faut du temps, il faut expliquer. Et en fait, ça, c'est ça qu'il faut. Et en fait, il faut que nous, y compris, donc tu parlais de Radio Canu, et donc des radios en général libres, et bien il faut qu'on redonne aussi de l'espace à la parole scientifique.
À la matière.
Et à la matière, et à comment ça fonctionne. Parce que je pense que beaucoup de gens sont curieux, mais qu'en fait, on leur donne pas l'envie. C'est-à-dire qu'on leur dit c'est compliqué, tu vas rien y comprendre.
Oui, et en fait, ça.
Quand vous discutez, moi j'ai eu la chance dans ma vie plusieurs fois de discuter avec des gens dont un qui est aujourd'hui prix Nobel et ben franchement c'est quelqu'un qui était capable de m'expliquer quelque chose et j'ai compris. C'est-à-dire que parce que ben, quand il avait le temps de m'expliquer, alors ça a pris un peu de temps, pas très longtemps, hein, 15-20 minutes, mais j'ai compris de quoi il parlait, sur quoi il travaillait, pourquoi, machin. Parce qu'en fait, un scientifique, il sait vulgariser. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il sait dire, bon ok,
ceux qui ont envie,
en général, parce qu'ils savent à qui ils parlent.
Mais qui ont aussi envie de sortir de leur position de pouvoir.
Tout à fait.
Il y a aussi ça.
Évidemment.
Il y a tout plein de choses derrière aussi, quoi.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont envie de le faire, vous le sentez. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps, ils prennent le pas de recul. Il y a des revues. J'ai parlé ici de Pour la Science, d'Epsilon. Alors, Epsilon, c'est fait par des journalistes qui prennent la parole des scientifiques. Pour la Science, c'est fait par des scientifiques qui écrivent pour vulgariser. Mais franchement, c'est des revues que vous pouvez lire. Elles sont faciles à aborder. Des fois, c'est un peu ardu, mais vous avez avez des notes de bas de page qui vous donnent quand même des infos. Puis si le sujet vous le maîtrisez pas, c'est pas grave. Mais simplement, vous pouvez avoir les premiers trucs. Devenez curieux. C'est ça, en fait, le truc. Et soyez curieux. Et parce que tout le monde me dit, ouais, mais la science aujourd'hui, ça sert au gouvernement à manipuler les gens. Non, en fait, c'est pas la science qui sert au gouvernement. C'est justement le fait qu'on ne s'empare pas de la science qui permet au gouvernement de faire peur avec des faux procédés.
C'est l'ignorance qui permet le pouvoir.
Donc voilà, je le pense très sincèrement, ça.
Bah oui.
Voilà.
Passe à la ZIC.
Ouais, c'est parti.
Allons-y.
Je demande au public de reculer. Reculez, 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 reculez. Reculez encore un petit peu, encore. Encore. Merci. Charge vos barillets. Dès que l'ampoule s'allume, on tire.
Commencement étaient les ténèbres, et puis le verbe et puis nique tes mères. A soufflé le chaud ou le froid, personne t'y aide. Juste ciel nous revoit jeter cette pierre à la marelle. D'un même geste, cette pièce à la maquerelle. Je t'aime, je te déteste, faut vraiment que tu disparaisses. Parmi les humains, les robots, les fauves, au beau milieu, observe la scène, c'est bon, elle est sauve. Soif qui peut, Vlatipois qui repleut, ce soir la lune est chauve, je ne crois pas en Dieu. J'en suis sûr, aussi sûr qu'un bleu, qui te demande comment tu t'es fait cette blessure. Et lorsque c'est mûr, murmure, murmure, murmure et meurt, je me suis muré pour mieux visser mon silencieux. Que personne ne bouge, que ce soit rouge jamais, j'ai dit. Que personne ne bouge, que ce soit rouge jamais, au choix. Du rouge vif, du rouge veuf, du rouge boulevard de magenta, du rouge qui tient plus en placenta, du rouge. Du rouge erreur de syntaxe, du rouge échappé de Sainte-Anne, du rouge vendé vendetta ou du rouge prolétariat au choix. Que feu soit vert émeraude ou rouge hémorroïde, j'hésite à germer germaphrodite. Qu'est-ce que j'aime rôder sous l'arche ou marron se mêle au laisser pour compte. Quant à ma cage walou, ça vaut peut-être le coup d'être possédé. Mais le tarôme taraude, mes semelles sont encore un peu lentes. Comme un employé de banque, encore falloir se dégoter une planque. Entre un baron de la drogue et un daron de l'abrogation. Garo, garo, je dis juste garo, garo, in fine. Sniffer n'est peut-être qu'une façon de pleurer. Les témoins qui nous manquent, a-t-on laissé tomber le bâton de relais? Happé par un train de vie, un train fragile, voire un trolley qui se dirige vers une fin tragique, contrôlé par des trolls trollés. Faut pas se leurrer, tu prends les tubes des noms, tu tombes des nues. Vu ses salutations, tu peux être sûr qu'il sera élu. On aurait bien quelques mots pour les molester. Moulé au mollet, j'ai testé la méthode douce à l'italienne, la morbide, j'ai testé, espérant insuffler le doute, j'ai testé l'aigre douce, sauf qu'ici on prie de l'hybride, j'ai testé cette méthode de là, l'écossaise m'a touché. Tout rouge est-il qu'il me restait la méthode jour? Toujours est-il qu'il me restait la méthode rouge? Tout rouge est-il qu'il me restait la méthode jour? J, où t'es touché un trou à bouche et vas-y, shoot-les! Que personne ne bouge, que ce soit rouge jamais, j'ai dit. Personne ne bouge, que ce soit rouge jamais, au choix. Du rouge vif, du rouge veuf, du rouge boulevard de magenta, du rouge qui tient plus en place, du rouge erreur de syntaxe, du rouge échappé de Satane, du rouge vendé vendetta, ou du rouge prolétariat, au choix.
Bonsoir le moulin, ça va ou pas?
Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré.
Et vous êtes toujours évidemment à l'écoute de Radio Canu, et plus précisément de La Causerie, comme tous les dimanches, à partir de 22h et jusqu'à tard la nuit. Non, je déconne. Et on vient de s'écouter. Alors évidemment, il y a eu ce petit rappel de Souchon qui vient vous rappeler, nous rappeler que La Causerie fête aujourd'hui, pile poil, c'est 10 ans. 10 ans, ouais, quand même. Avant
10 ans.
C'est ça, 10 ans, quoi. Et avant ça, on a écouté le formidable titre « Méthode rouge de Virus » avec Altarba. Et c'était dans une version instrumentale classique, en compagnie des musiciens et musiciennes de l'ESM, de l'École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que je vous en avais peut-être parlé, mais ils ont fait une mini tournée justement avec cet accompagnement classique, et c'était une vraie tuerie, même si l'enregistrement n'est pas des meilleures qualités. Mais
on les a vus à Mâcon, ça défrise.
Mais bordel, ça envoyait du lourd.
Il y a un peu trop de basse.
Un peu trop de basse. Enfin bon, voilà. Et de ce que j'ai cru comprendre de Virus et Altarba, normalement, Méthode Rouge est un nouveau titre qui devrait figurer sur le tout prochain album de Virus, qui sera fait en compagnie évidemment d'Altarba à la prod, en tout cas au beatmaking. Quoi.
Bah oui. Ça devrait être. Comme le précédent d'ailleurs.
En tout cas, ouais.
Il y avait déjà des titres en commun.
Oui, ils ont déjà eu des titres en commun. Évidemment, La Nuit se lève, par exemple. Enfin bon, bref, je vais pas vous refaire tout ici. Donc, on
agenda.
S'approche de la fin de l'émission, clairement, rapidement.
Oui.
Donc, agenda.
Mais je commence.
Ah, okay.
Alors, moi, je vous invite au meeting féministe le 6-3, donc le 6 mars, je 6-3, à 18h30 à Lyon 2. Alors, c'est le meeting féministe et des luttes, et c'est fait par le Comité Féminin Populaire, nouvelle organisation de femmes révolutionnaires. Venez nombreuses et nombreuses à 18h30 sur la fac des quais à Lyon 2, Berge du Rhône, et elles disent, viens assister à notre meeting féministe et des luttes en lien avec la réforme des retraites, voilà, et donc, du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire. Non,
il n'y a pas grand chose.
Oui, c'est aussi préparé collectivement aussi la Journée internationale des femmes prolétaires en lutte, en étant nombreux et nombreuses pour le 8 mars. Voilà. Je vous ai donné toutes les infos.
Ah, ça sent le prolétariat. Enfin, hein. bref. Les autres rendez-vous, évidemment, vous imaginez bien, et vous en avez certainement entendu, parce qu'on vous a dit que la France, le monde, que dis-je, l'univers devrait s'arrêter normalement autour du 7 mars. Hein. Véran nous a prévenu que ce serait très dangereux de faire grève, donc évidemment, faites grève si vous le pouvez.
Et d'ailleurs, si vous mettez la France à l'arrêt, les dinosaures vont disparaître.
Ouais, c'est...
Il faut le savoir.
C'est quand même fou, cette capacité des politiques à exagérer et qu'en fait, ça passe, quoi. Enfin bref. Donc, le 7 mars, évidemment, alors sur Lyon, en tout cas, le départ se fera à 11h depuis la manufacture des tabacs, avec une arrivée à Bellecourt. J'imagine qu'il y a aussi, sûrement dans l'après-midi...
16h30, place du Promenoir
À Villefranche. Donc,
Promenoir. Ouais, c'est ça. Merci.
Donc n'hésitez pas, selon où vous êtes et où vous pouvez aller, ben voilà, il n'y a pas que Lyon dans la vie, et c'est ça très bien aussi, je trouve, dans ces manifs, c'est que ça se décentralise un peu des grosses villes, et je trouve ça très encourageant.
Et à Bourg-en-Bresse, je peux vous dire que c'est à 11h30.
Eh ben nickel, très bien.
Si vous êtes à Bourg-en-Bresse, c'est pas...
Donc évidemment, on ne va pas vous refaire le topo sur cette case des retraites, mais vous l'aurez compris, à l'heure où les actionnaires et tous les gros se partagent des grosses parts du gâteau, nous on est censé...
Tu teases la semaine prochaine.
Ouais, peut-être. Nous, on est obligés de continuer de travailler encore plus, parce que c'est ça le progrès, ce qui paraît. Moi, je pensais que le progrès, c'était de pouvoir flâner, de pouvoir regarder la nature, de pouvoir respirer, lire, baiser, flâner, ne rien faire, buller. Et ben non, en fait, selon les possédants, c'est de crever à la tâche. Donc, le 7 mars, évidemment, rendez-vous à Lyon et partout en France, si vous le pouvez. Vraiment, je vous y invite.
Et le lendemain, c'est le mercredi 8 mars, et c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes.
Ouais.
Pour les droits des femmes, pardon. J'ai mis un le, mais c'est... donc, il y a plein de trucs. Ça commence de 12h à 14h par un rassemblement devant le siège du MEDEF, organisé notamment par les collectifs féministes des différents syndicats signataires de l'appel interprofessionnel qui vous fera déjà descendre le 7 à 11h. Voilà, mais donc là, c'est à midi à 14h devant le siège du MEDEF, pour rappeler quand même que les femmes sont les principales touchées par la destruction des retraites, mais aussi par le fait qu'en France, on a encore 16,8% en moyenne d'écart salarial dans le public et 25,4% d'écart salarial dans le privé entre les hommes et les femmes. Donc, ce serait peut-être temps d'aller aller botter le cul au MEDEF pour lui rappeler que c'est un homme et une femme, ça se paye pareil. Voilà, donc c'est de 12h à 14h.
Ça, c'est le 8 mars, on est d'accord.
C'est le 8 mars.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ben ensuite, à 17h, parce que vous saviez, vous êtes dit, tiens, je vais continuer ma journée internationale de lutte pour le droit des femmes, pour les droits des femmes, je vais y arriver. Donc là, ben, c'est de 17h à 19h et il y a un départ qui est aux gagneurs.
Ouais.
Je sais pas comment.
Non, il y a un rassemblement qui est au gagnant.
Un rassemblement, pardon.
Près de la préf à 15h40.
Voilà.
Mais le rassemblement, on va dire, et la manif organisée par le CDF à Lyon, c'est-à-dire le collectif droits des femmes qui. Et plein de différentes organisations. Mmh. En tout cas, c'est rassemblement à 17h sur Bellecour. Il y aura des prises de parole, il y aura, je crois, même des trucs pour faire vos banderoles, il devrait y avoir c'est plusieurs
ça.
choses.
Et rassemblement, c'est à partir de 15h40. C'est écrit, pardon.
Bah c'est ok, c'est pas moi ce que j'avais, mais
okay. J'ai ça là.
17h.
Ah, 17h, bon, bah autant pour moi.
Je pense que c'est encore lié à des syndicats ou des choses comme ça, parce que 15h40, ça doit être le moment.
Ah oui,
où
c'est le moment où les femmes s'arrêtent parce que c'est là qu'elles sont plus payées de l'année.
C'est ça. Et donc, ouais, sur Lyon, ça sera 17h, place Bellecour, en tout cas, pour un rassemblement. Et à 18h, départ en manif. J'ai pas le parcours, mais ça va être sur la presqu'île, etc. Mais voilà, venez-y si vous le pouvez, parce que là aussi, on sera. Nombreuses et nombreux, parce que l'égalité entre les personnes, en fait, c'est pas ça, ça devrait être l'affaire de toutes. Hein. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est pour autour du 8 mars. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, le 9, on a un soutien aux inculpés qui ont été inculpés pour sabotage de mât de mesure des éoliennes en Haute-Vienne, mais leur procès se passe à Lyon, si j'ai bien tout compris. Okay. C'est à Limoges, je vais y arriver. Voilà, et parce qu'il y a un lien avec Lyon, parce qu'il y a des Lyonnais en fait qui ont été arrêtés, okay. C'est pour ça. Et donc en fait, c'est à Limoges. Et donc vous êtes invité à aller devant le tribunal de Limoges, si vous êtes dans le coin, à partir de 9h30 du matin, voilà, yes. Pour les soutenir.
Et le 9 mars, au bar de l'autre côté du pont, il y a une soirée qui est organisée par Planning Familial 69 et Super Féministe, avec la diffusion d'un film Femmes précaires, et ensuite une caisse aussi de grève, en tout cas une caisse, ouais, pour soutenir une caisse de grève féministe. Voilà, en tout cas pour cette semaine, ça devrait être déjà pas mal chargé quand même, ouais. Pour celles et ceux qui peuvent se bouger.
Et moi je vais juste te dire, rapprochez-vous des syndicats si ça vous intéresse, allez voir ce que font les syndicats. Quelle que soit l'obédience que vous allez voir, renseignez-vous et sortez des clichés que balancent les médias et les gouvernements depuis quelques temps, enfin pas tous les médias d'ailleurs, certains médias notamment très à droite, sur le fait que les syndicats ce seraient tous des pourris qui servent à rien. Oui, ben allez voir un peu ce qu'ils font plutôt que de dire ça. Voilà.
Ouais, le pire c'est que c'est pas que les médias de droite.
Ouais, non mais je.
Dans nos milieux aussi, on sait faire assez binaire et assez simpliste de l'antisyndicalisme, alors que on peut critiquer tous les. Je l'ai déjà dit, mais vraiment on peut critiquer.
Je voulais pas trop lancer.
Ah, non, mais je suis désolé, mais c'est juste. Je trouve que là aussi, ça fait partie des trucs. En fait, d'un coup, on se découvre. Oh là là, les religions reviennent. Oh là là, le syndicalisme se casse la gueule. Bah ouais, à force de chier dessus tout le temps, ça sert à ça. En
alors
fait,
on chie pas trop assez sur les religions, c'est pour ça qu'elles reviennent.
Ouais, mais c'est ça. Et on chie trop sur les syndicats, ce qui fait que ça. En fait, c'est. Oui, en fait, on peut critiquer toutes ces structures.
Oui, tout est critiquable dans la vie.
Il y a aussi, ce sont des outils de lutte directe quand vous êtes emmerdé, oui. Ou pas d'ailleurs, mais ça vous évite vraiment d'être seul, etc. Donc vraiment, ça sert. Vraiment, donc.
Et puis, honnêtement.
Il ne s'agit pas de prier Saint Martinez ou Saint je ne sais pas qui chez les autres syndicats, mais juste.
Berger.
Berger ou Sud, etc. Ouais. Enfin bref.
Ils n'ont pas de chef à Sud.
Ouais, c'est ça.
On voit toujours le même, mais ils n'ont pas de chef.
Mais ce qui fait que voilà, en fait, ce sont des outils de lutte et vraiment entre la critique et l'effacement, ou en tout cas le bannissement de cet outil-là, je pense qu'il y a des équilibres à trouver.
Et je vais
quoi.
Compléter ce que tu dis par une chose qu'on a oubliée, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir encore un panel syndical très large qui vont aussi bien de l'anarcho-syndicalisme au syndicalisme dit réformiste. Donc vous avez quand même de quoi rencontrer plein de syndicats différents. Et c'est pour ça que je vous invitais vraiment à aller les voir. Parce qu'en fait, rencontrer des militantes et militants, puis vous verrez que... Demandez-leur ce qu'ils font tous les jours, ouais. Comment... voilà. Et vous verrez que c'est loin des clichés que certains collent. Voilà.
C'est ça.
C'était juste ça.
Une spéciale case dédiée à celle qui peut-être se reconnaîtra. Le travail est une exploitation et nous ne sommes pas à égalité dans le milieu du travail. Hein. C'est un contrat de subordination. Ouais. Donc, c'est un lieu où on perd déjà de notre liberté. Voilà. Big up, petit personnel, mais voilà.
Et donc, du coup.
On se quitte en musique.
On se quitte en musique.
On pensait finir plus tôt, et en fait, pas du tout.
Et la musique, elle a été choisie par Clara, qui va mettre juste avant J'ai 10 ans pour finir.
D'accord, tu veux ça ?
Bah ouais, quand même, qu'on termine sur 10 ans de la causerie, quand même. Et après, on enchaîne avec le titre que tu as choisi, qui est
Experience de Ludovico Elodie.
Voilà, c'est ça. Donc ça va être bien.
C'est ça, on va se poser tranquillement. On va rappeler que c'était les 10 ans, que c'est les 10 ans de la causerie.
Jour pour jour.
Jour pour jour. Et puis on vous souhaite bonne semaine à venir, plein de luttes et tout ça. Faites attention à vous, protégez-vous, aidez-vous. Et puis à la semaine prochaine.
Et même si on lutte, n'oubliez pas de quand même aussi de vous prendre des petits moments à vous, de vous faire du bien et du plaisir quand vous pouvez. C'est important dans la vie aussi.
Grave.
Voilà.
Des bisous. À dimanche prochain. Ciao.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré.